voyage que vous allez entendre est une rediffusion.
Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develay-Mazurel, Laure Allary.
Bonjour à tous. Cette semaine, je vous emmène en voyage à travers les mille pages des récits et des ouvrages d'une librairie parisienne à nul autre pareil. Ulysse, c'est le nom de cet antre, à l'odeur de papier et d'encre, truffé de manuscrits anciens ou récents, de cartes, de comptes rendus d'expéditions long cours, de beaux livres, de photos et de numéros introuvables de vieilles revues de voyage. Ça faisait longtemps que j'avais envie de vous parler de cet endroit aux allures de temple du voyage, connu des bourlingueurs français mais aussi étrangers et consacré plus ancienne librairie de voyage au monde. Si les lieux sont exigus, la promesse d'horizon, elle, est grande pour celui qui s'y aventure. Surtout qu'à l'intérieur, du haut de ses 80 ans, une femme règne et veille sur ce trésor qu'elle a créé et assemblé à son image. Exigeante, singulière et pleine de caractère surtout. Depuis près de 50 ans, Catherine Domain anime donc cette librairie située au cœur du Vieux-Paris sur l'île Saint-Louis, baignée par la Seine. Non loin de là, sur l'île voisine, sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris, se trouve le point zéro des routes de France. Et au pied de la librairie Ulysse, on se dit que ce sont les routes du monde qui commencent.
Alors, numéro 26 ? Rue Saint-Louis-en-Lille, Ulysse, pays et voyage. Il est écrit en librairie Ulysse. Est-ce que c'est ouvert? Ah, je vois Catherine.
Bonjour, bonjour Catherine.
Tu as lu?
Qu'est-ce que je dois lire?
Alors, ici, librairie spécialisée à l'ancienne. Contraire du self-service, grande surface ou bouquiniste. Ce n'est pas non plus une bibliothèque. Vous ne pouvez pas trouver tout seul et vous pouvez avoir des rapports humains avec la libraire qui, comme vous, a ses humeurs. Comme ça, j'annonce la couleur. Et pour ceux qui ne comprennent pas du premier coup d'œil, il y a 3 épaisseurs de livres sur les rayons. Leur densité provoque des chutes et seulement une libraire pour ranger selon son ordre précis. En résumé, c'est une librairie non formatée avec un seul moteur de recherche.
Là, on est entré dans votre antre, dans cette librairie, ouais. Où effectivement, il y a des livres du sol au plafond. Alors, en entrant, il y a un tourniquet avec des cartes de l'IGN, des guides de la Pologne, de la Sardaigne, des vieux guides des années 70, du Sénégal, de la Malaisie. Congo, Zaïre, Océan Indien, Réunion.
C'est classé par continent. Et dans les continents, c'est classé par pays. Et puis, évidemment, il y a des classifications par thème, comme les voyages moto, vélo, cheval, âne, les voyages course, école, voile, océan, paquebot, voyage avec en famille. Voyage de nana sur les bateaux, faune, flore, voile, cargo, trésor, île, enfin voilà.
Alors moi j'ai lu, Catherine Domain, qu'il y avait, je ne sais pas si c'est vrai, parce que les journalistes aiment bien les chiffres, mais qu'il y aurait 20 000 ouvrages dans votre librairie.
Là il y en a sûrement plus.
Comme ça c'est vrai qu'on pourrait penser que c'est un peu en désordre. Ça vous vexe hein, quand je dis ça. Je retire ce que j'ai dit alors.
Oui, c'est mieux si vous voulez sortir entière.
Très bien, Madame Domain.
J'ai un ordre, ça n'a pas l'air, mais j'ai un ordre dans chaque étagère. Donc, je ne permets pas au badaud du dimanche de rentrer, de foutre le bordel et de s'en aller. Je n'autorise l'exploration qu'à des gens qui sont déjà venus, pas pour la première fois, que je connais.
Mais parce que c'est vrai que c'est une librairie où on n'arrive pas par hasard. Comment les gens arrivent ici? Est-ce que c'est avant de voyager? Est-ce que c'est après? Est-ce que c'est tout simplement parce qu'ils ont envie de voyager à travers les livres?
Il y a tout. Moi, je trouve que c'est intéressant de venir avant de voyager si le voyage est très court, parce que plus le voyage est court, plus on a besoin d'avoir de renseignements. Et si on ne fait pas l'exploration du pays ou de l'endroit où on va un peu à l'avance, on risque de rater beaucoup de choses. En même temps, il y a les gens qui, un peu moi, n'ont pas envie de déflorer l'endroit et qui ont envie de découvrir à leur guise et à leur instinct, en faisant quelquefois une impasse sur des choses importantes, mais tant pis, on reviendra. Et puis après, il y a le désir de revivre ce qu'on a fait à travers des livres plus sérieux et aussi à travers l'expérience des autres. Alors, ça peut être de revivre à travers, depuis le Moyen-Âge jusqu'au temps moderne, de revivre à travers les voyages qui sont faits dans le pays où on est allé.
Est-ce qu'on peut regarder, Catherine, tous les livres qu'il y a sur ces étagères ?
Des ruines mayas au repère de la flibuste. Le livre des pirates. Escale buissonnière dans le Pacifique Sud. Traversée, voile de soie. C'est quoi ça?
Claude Tournière, journal de voyage d'Hector Ménard,
graineur de Valréas, de Marseille à Yokohama. Bon voyage.
1861.
Ouais. Aventure et combat des trois belles poules. L'esprit des lointains. Ça, c'est
Claude Carré.
Claude Carré, il a, c'est des petits paragraphes où il raconte ses voyages.
Rien qu'à regarder les tranches des étagères, donc avec trois rangées de livres, on voyage déjà. Je ne sais pas par quoi commencer. Vous auriez envie de commencer par quoi ?
Ben, on peut commencer par un des livres qui a déclenché mon amour des récits de voyage, c'est L'usage du monde de Nicolas Bouvier, qui est vraiment un livre très important et que j'ai toujours vendu depuis que je suis libraire. Parce que j'ai connu Nicolas Bouvier bien avant d'être libraire. Et c'est un être fascinant. Et quand j'ai lu son livre, je l'ai trouvé extraordinaire. Et je le vendais dans ma première librairie, là, en disant aux gens... Si vous n'aimez pas ce livre, vous me le rendez. Je vous rembourse intégralement, mais je vous prendrai pour quelqu'un d'assez sot. Voilà. Et il y a deux personnes qui me l'ont rapporté.
Et alors, où est-ce qu'il est situé, Nicolas Bouvier ?
Il est sur mon bureau.
Il est sur votre bureau, alors, et c'est la meilleure place à l'entrée.
Là, il y a tout Nicolas Bouvier.
Donc oui, il y a L'usage du monde, il doit y avoir aussi peut-être les chroniques japonaises.
Il y a ses œuvres.
Il y a toutes ses œuvres.
Il y a ce qu'on a écrit sur lui. Il y a...
Le poisson scorpion, journal d'Aran.
Voilà, puis il y en a qui sont ailleurs encore.
Alors Nicolas Bouvier, pour le présenter, c'est un écrivain suisse, iconographe de formation, en tout cas il a été intense, qui a beaucoup joué sur sa littérature, parce qu'il a comme ça ce sens des images qui ramène toujours dans ses mots. Effectivement, L'usage du monde, c'est un livre qui aujourd'hui est une des bibles, on va dire. En tout cas, c'est un livre culte pour les
Moi,
gens qui s'intéressent.
Je dirais que c'est le meilleur livre de cette librairie. C'est le récit de voyage le plus abouti de cette librairie. Quand j'ai lu L'usage du monde et celui de Muriel Serf, L'anti-voyage, j'ai dit, bon, c'est pas la peine que j'écrive, c'est fait. Voilà. C'est deux livres qui m'ont subjuguée.
Et alors, L'usage du monde, ça a été publié dans les années 60. C'est le récit qu'a fait d'un voyage qu'a fait Nicolas Bouvier avec Thierry Vernet, qui était son ami, illustrateur par ailleurs, quand ils sont partis, peintre. Quand ils sont partis en Topolino, dans une petite voiture, direction l'Asie. Et ça s'arrête alors aux portes de l'Inde, entre le Pakistan et l'Afghanistan. Et c'est vrai que ce récit-là, au départ, il n'a pas eu un grand succès. Comment vous l'expliquez ?
Dans les années 70, les gens n'avaient pas voyagé. Donc, ils n'étaient pas à même de comprendre cette philosophie de Nicolas, cet instinct qu'il avait des gens et des paysages et des situations. Et quand les gens se sont mis à voyager, quand le voyage s'est vulgarisé, eh ben, c'est devenu presque une chapelle, Nicolas Bouvier.
Et pourquoi ce livre serait le meilleur de votre librairie ? Qu'est-ce qui...
Parce qu'il y a tout dedans. Il y a la qualité de l'écriture, qui est une grande qualité. Et sa perception est toujours bien intentionnée. Il a beaucoup d'humour, il a l'œil, et il ne parle pas que de lui. Il parle de lui-même, il explique, mais il capte. Voilà, c'est pour ça que c'est le meilleur. Et en plus, moi je connaissais très bien Nicolas, et il parlait comme il écrivait. Hein.
L'usage du monde, je l'ai compris comme l'usage qu'on en fait, l'usage qu'on peut faire de cette expérience, de ces Wanderjahre, et non pas du tout l'usage qu'on en a, n'est-ce pas ? C'est une sorte de découverte de la vie après la période d'abstraction des études, de découverte de la vie réelle, dans ce qu'elle peut avoir de plus dur et de plus cru que l'image que nous en donne la vie que nous avons. Que nous menons ici, et c'est une expérience qui est valable sur toutes sortes de plans, non pas seulement sur le plan pratique, sur le plan du débrouillage, mais c'est une découverte de la nature humaine. On devient plus vulnérable, on devient plus mobile, on est obligé de s'engager chaque jour, on est beaucoup plus réceptif. Et on est mieux à même de faire le point aussi, c'est-à-dire d'éprouver les choses par rapport à soi et non pas par rapport au milieu qui vous abrite ou au cadre qui vous détermine.
Là, on se trouve donc au cœur du Vieux Paris, sur l'île Saint-Louis, dans une petite rue où il y a des gens qui passent. On est dans un vieil immeuble, ça se voit. Depuis combien de temps est-ce que vous êtes, vous, installé ici ?
Alors, dans cette librairie ici, depuis 90. Mais dans l'île Saint-Louis, en tant que libraire, depuis 71. Et... ma première librairie était toute petite, elle faisait 16 mètres carrés vide et elle était un petit peu plus loin, de l'autre côté de la rue des Deux-Ponts. Et puis les péripéties immobilières du quartier ont fait que j'ai dû déménager. Voilà. Mais ici, ça a été un coup de cœur. J'ai trouvé cet endroit par miracle et j'y suis très bien. Voilà.
Comment on en arrive à ouvrir une librairie pareille ?
Écoutez, moi, je suis née en Algérie, ce qui a sûrement marqué mon tempérament, parce que je suis très méditerranéenne. Et ça commence à l'âge de 10 ans. Mes parents, comme je devais redoubler ma sixième, mes parents ont décidé de m'envoyer en Angleterre. Et ça a été à la fois dur... mais en même temps formidable, parce que j'ai découvert l'indépendance. Je voyageais seule pour y aller. Je suis arrivée dans un endroit où je ne parlais pas la langue, je ne comprenais rien, et tout m'a intéressée. Donc ça a été mon premier dépaysement. Et puis ensuite, pendant mes vacances d'été, mes parents m'envoyaient un mois en Espagne, et un mois en Angleterre ou ailleurs. Et j'ai fait ça jusqu'au baccalauréat, que j'ai raté. Mais mon professeur d'anglais, qui était formidable, m'a dit « Catherine, il y a un organisme qui propose des bourses, vous devriez vous inscrire. » Et alors ces bourses étaient offertes par l'American Field Service, et c'était une année aux États-Unis. Et ça a été extraordinaire, parce qu'à cette époque, c'était dans les années 50, les États-Unis, c'était vraiment un univers complètement différent, plus du tout comme maintenant, où on est très près d'eux. Et donc, je me suis dit dans ma tête, si c'est comme ça ici, il faut aller voir partout, quoi. Donc, ça a été un long cheminement vers les voyages en général. Quand je suis rentrée, mon père m'a dit, bon, maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, ben, je veux continuer d'étudier les langues. Et donc, je suis allée étudier à Genève, où là, Genève est une plateforme formidable, où il y a des étudiants de tous les pays. Donc, ça a contribué aussi à mon éveil vers le monde. Et j'ai commencé à voyager là. Alors, ça a été des petits voyages, puis après des longs voyages, et j'ai voyagé pendant 10 ans. Jusqu'à l'âge de 30 ans. Et là, je me suis dit, bon, je ne vais pas voyager toute ma vie comme ça, avoir juste un petit sac et partir. Il faut que je fasse quelque chose, que je m'intègre dans la société. Et je me suis dit, je vais faire une boutique. Parce qu'une boutique, on peut ne pas avoir d'employé et ne pas avoir de patron. Et qu'est-ce que je vais pouvoir vendre? Eh bien, des livres, parce que j'avais un grand-père libraire. Donc, ça me paraissait... Et j'ai dit, j'ai un arrière-grand-père qui était capitaine au long cours. Et donc, j'ai dit, ah ben tiens, je vais faire une librairie de voyage, ça n'existe pas. Nulle part au monde. Il y avait des librairies colonialistes. C'est-à-dire que la France avait des librairies avec de la documentation sur les pays qu'elle colonisait. En Italie, pareil. En Angleterre, pareil. Mais une librairie de voyage, ça n'existait pas. Donc, j'ai écrit du Sri Lanka à mon papa en disant, voilà papa, j'ai une très bonne idée. Est-ce que vous pourrez m'aider quand je rentre? Et mon père m'a répondu en Australie, je t'aiderai. Voilà. Et je suis rentrée. Et je me suis installée dans l'île Saint-Louis. J'ai commencé à organiser ma tête pour faire cette librairie de voyage que je voulais faire. Et, ouais, et voilà, comment ça a démarré. Et un matin, en allant chercher le journal, j'ai vu une petite librairie qui s'appelait Ulysse, mais d'après James Joyce. Et je me suis dit, tiens, c'est un nom pour moi, parce que je cherchais un nom aussi. Et je suis rentrée dans la librairie, il y avait quatre types qui jouent au poker. Et j'ai dit, oh, elle est jolie cette petite librairie. Et ils m'ont dit, elle est à vendre. Et je me suis précipitée dedans. Et voilà, c'est comme ça que j'ai atterri dans l'île Saint-Louis. Et tout le monde me disait, oh mais l'île Saint-Louis, personne ne viendra te voir. J'ai dit, moi ça m'est égal, c'est une adresse. Si on dit librairie Ulysse, île Saint-Louis, on me trouvera. Et j'ai pas eu tort.
Un soir a rompu ses amarres, elle avait soif de liberté. Avec ses joies, avec ses peines qui s'en allaient au fil de l'eau, on la vit descendre la Seine, elle se prenait pour un bateau. Quand on est une île, on est bien tranquille au cœur de la ville. C'est ce que l'on dit. Mais un jour arrive, en douce on s'esquive, on quitte la rive pour voir du pays.
Vous écoutez Si loin, si proche sur RFI. Catherine Dama, vous avez créé la première librairie de voyage qui existe en France, en tout cas à Paris. Vous l'avez du reste appelée Ulysse.
Archivina, France Culture, 1973.
Dans l'île Saint-Louis, tout le monde se connaît, donc tout le monde passe pour dire bonjour. Et puis ensuite, c'est aussi un point où tous les gens du voyage se rencontrent et se donnent des tuyaux. Par exemple, si on veut savoir s'il y a une route entre tel endroit et tel endroit, si elle est praticable, il n'y a rien de tel que le renseignement qui vient de la personne qui a fait ce voyage. Et alors, très souvent, ça arrive que les gens se donnent des tuyaux comme ça, comme on fait en voyage sur les routes. Quand on croise quelqu'un qui vient d'un point où vous allez, on lui demande comment ça se passe, s'il y a des difficultés. C'est ce que je veux faire et c'est ce qui se fait.
Ça, c'était la Spyros. Voilà, le premier article qui a vraiment eu un grand impact, c'est celui-là, de Paris Match.
Vous avez gardé
Ah, j'ai tout gardé. Voilà. Avec les guides de Catherine, on va partout, même sur la Lune. Il faut que je les refasse parce qu'ils sont... Bon. Et ça a tout déclenché. Et ça a déclenché le Figaro. Ça a déclenché Le Monde, qui était vraiment important, et tous les autres, voilà.
Donc, bah, la preuve en est, elle a toutes ses chemises.
Mais il y en a, j'en ai 20 en tout. J'ai pas sorti les 20. Alors, ça, c'était ma première carte de visite.
Ulysse, la librairie des pays et voyages, vous propose guide, cartes, itinéraires, récits, croisières, explorations, mœurs et coutumes, archéologie, art, livres pour enfants, etc. Plus de 3000 ouvrages, neufs et anciens. Maintenant, il y en a quand même beaucoup plus.
Ouais.
Concernant les pays qui vous intéressent.
Voilà. Alors, au début, je faisais beaucoup de signatures. Alors, j'étais très éclectique. Hein. Ensemble bolivien. Le chemin de fer dans la vie des hommes. La vie vite de Théo Leswalch, les grandes manœuvres de l'opium de, c'était Catherine Lamour et Michel Lamberti. Enfin, je faisais Gilles Vigneault est venu signer ses disques dans ma librairie. Je faisais beaucoup de choses. Moi, là où j'ai innové, c'est que j'ai été une des premières, hein, je dis pas la première parce que c'est peut-être pas vrai, mais à faire un panachage sur mes rayons, c'est-à-dire que j'ai des livres neufs, j'ai des livres anciens, j'ai des livres d'occasion, j'ai des revues et des cartes, hein, très important. J'ai jamais tout en même temps, ça c'est vrai. Mais en même temps, je ne dis pas « Ah, ça, c'est un livre colonial, je ne le prends pas ». Au contraire, je trouve que c'est important de pouvoir lire, comparer, voir l'évolution, voir ce qui n'allait pas et voir ce qu'on a changé. Voilà.
Vous avez dit à un moment qu'avant votre librairie, il n'y avait que des librairies colonialistes. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que c'est vrai que ça renvoie quand même à toute la question du récit de voyage et puis du voyage en lui-même qui, historiquement, se situe forcément dans la découverte, la conquête. Donc aussi dans un regard qui parfois peut être colonial. Ça a longtemps été le cas. Et le regard qu'on a posé sur l'autre, l'indigène parfois, comme on l'appelait, le colonisé. Bah là, justement, on a R, je ne connais pas son prénom, Gautreau, journal d'un colonialiste.
Voilà. Donc voilà, bah lui, il était colonialiste. Il l'assume et il raconte ce qu'il a vécu. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Afrique va rentrer dans l'ère des nationalités. Et lui, c'est un jeune administrateur. Et il ne condamne pas, mais il n'absout pas. Donc c'est déjà un virage. Et ça se lit comme un roman d'aventure, mais il faut toujours avoir du recul. Voilà. Il faut toujours avoir de la distance dans ce qu'on lit. Même maintenant, enfin même ce qui est écrit maintenant. Alors là, on a du Michigan à Panama. Ça, c'est un douanier qui un jour on a eu le truc et il a construit un bateau lui-même et il est parti avec sa femme et ses enfants Mais là, de Michigan à Panama, je crois que sa femme est restée à terre. Elle en avait un peu marre. Alors, les maritimes, un marin charentais autour du monde, les grands navigateurs solitaires, en solitaire, les ratés de l'aventure. Il y a les livres que j'ai envie de lire, hein, aussi. Vous voyez, la Terre des vagues, Moby Dick, Robinson Crusoe, Histoire des naufrages, Une fois suffit. Ça, c'est un bouquin. Si on le lit, on ne part plus sur un voilier. Hein, parce qu'ils ont fait oups.
Ils se sont retournés.
Oui, complètement. Voilà, les îles.
Et vous, vous aviez, et vous avez peut-être encore cette passion de la mer.
J'ai fait beaucoup de navigation, beaucoup de voiles, surtout dans le Pacifique. Je suis allée pratiquement dans tous les archipels du Pacifique. Donc, parce que pour moi, c'était une manière de voyager extraordinaire, qui provoque une communion avec la nature, avec la mer, et qui, en même temps, est la découverte d'endroits peu fréquentés. Et moins les endroits sont fréquentés, mieux c'est. Et parce que le tourisme est une industrie qui, je l'ai toujours dit, tue son propre objet. C'est-à-dire que vous prenez une plage magnifique avec du sable blanc, de la mer turquoise et des cocotiers avec des noix de coco délicieuses. Vous construisez un aéroport, vous construisez un hôtel avec 1000 places et votre plage devient un enfer. Voilà. L'enchantement du voyage de mes jeunes années, c'était la découverte de choses complètement nouvelles et extraordinaires auxquelles j'aurais jamais pensé. Et voilà. Et si maintenant tout est partout pareil, la mondialisation, c'est pas terrible pour le voyage. Mais bon, en dehors de ça, pour moi, le voyage, il existe et il change pas. C'est une découverte personnelle qu'on doit faire en allant à la rencontre des autres. C'est la lenteur, c'est l'observation, c'est la communication, c'est personnel, voilà.
On a beaucoup parlé de livres, Catherine Domain, des livres de voyage qui font voyager aussi. Il y a aussi la musique. Et j'avais envie de vous demander si vous deviez choisir une musique qui pour vous évoque le voyage, peut-être les vôtres ou pas, ou d'autres. Ce serait laquelle de musique ?
Moi j'aime beaucoup les musiques qui ont été enregistrées par Nicolas Bouvier. J'adore ces chœurs de femmes qui viennent de la terre, au plus profond de l'ex-Yougoslavie. Je trouve ça très prenant. Mais c'est vrai que la musique des voyages est quelque chose de très évocateur. Pour moi, c'est prendre la route. Ouais.
Bosnie, ça c'est un chant bosniaque, c'est un style particulier à la Bosnie, plein d'influences turques encore, puisque la Bosnie est de tous ces territoires celui que les Turcs ont tenu le plus longtemps, sans sauvagerie exagérée d'ailleurs. Et ce style s'appelle Sevdalinka, et ça c'était à la terrasse d'un café où il y avait d'excellents musiciens. Et alors on a écouté cette musique que moi je trouve absolument sublime.
Si loin, si proche, écoutez, vous voyagez.
Bah,
Frigide. Avec le nouveau coq. Église Saint-Louis en Lille. Nous avons le dernier livre arrivé dans cette librairie. Il est arrivé hier.
Mayotte, l'âme du Nil. Qui a l'air d'être un beau livre de photos avec des textes.
C'est un beau livre de photos par un éditeur édition des autres qui vient de se créer, d'ouvrir. Je trouve très courageux. Et il y a des très belles photos.
Détour du monde, 5 années à vélo, 50 pays, 67 000 km.
Je suis fatiguée.
Rien qu'en lisant ça.
Mais ça, j'aime bien, c'est le monde en puzzle. Et puis, derrière, il y a une marmite afghane.
Et c'est presque. Vous admirez, chère madame, vous admirez.
J'admire.
Elle admire sa propre vitrine.
Je sais. je sais, mais moi aussi, j'admire tous les jours.
Est-ce que vous êtes du quartier?
Au bout de la rue.
Tous les jours, je la vois passer.
Et tous les jours, je lui fais un coucou.
Et alors, qu'est-ce que vous dites quand vous passez devant cette librairie Pays et Voyage, la librairie Ulysse?
Qu'est-ce que je dis? Ah non, je la regarde, elle. Mais la librairie, je l'adore. Je l'adore. Je trouve que ça fait rêver. Ça fait rêver complètement. Toujours. Et je sais par des amis qui voyagent beaucoup que c'est une librairie exceptionnelle parce qu'ils trouvent des documents et des bouquins qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Voilà, ça c'est vrai, je te l'ai déjà dit. Voilà.
Merci.
De rien. C'est vraiment ce que je pense du fond du cœur.
Sur l'île Saint-Louis, devant la librairie Ulysse, il n'est pas rare de croiser des amis et des voisins de Catherine Domain, connus ici comme le loup blanc, voire le loup de mer. Surtout si vous y allez le premier mercredi du mois, où depuis plus de 25 ans se tient, à même la rue, le Cargo Club. Un étonnant rendez-vous imaginé par Catherine au départ, pour les amateurs de voyage en cargo, qui au fil des années s'est ouvert à tous les amoureux de voyage et de grand large. Car Catherine, vous l'avez compris, a l'âme nomade et le pied marin. Chaque été, elle installe d'ailleurs sa librairie Ulysse, au Pays Basque, à Hendaye, face à la mer. Et depuis 2007, elle y décerne le prix Pierre Loti pour récompenser un récit de voyage paru dans l'année. L'imagination fait des merveilles. Et je vous assure, à Paris, en entendant sonner les cloches, j'avais l'impression de sirènes de bateaux annonçant de grands départs. Les minces trottoirs de la rue se sont alors mués en larges quais, et un court instant, j'ai vu des bateaux-livres et les plus grands noms des lettres et du voyage s'amarrer. Mais ça, c'est en partie vrai.
Quand j'ai déménagé, j'ai voulu faire un baptême de la nouvelle librairie qui est à deux pas de l'ancienne. Et donc, j'ai choisi trois marraines. Alors, les trois marraines, pour me porter chance, c'était Catherine Lamour, Catherine Lachance et Catherine Lalumière. Et Ella Maillard, super marraine, et Hugo Pratt, le parrain. Et ils sont tous venus le jour du baptême, qui était champagne et dragée. Voilà, j'ai fait une petite fête. Et donc... Hugo Pratt, je l'ai rencontré parce qu'il est rentré dans ma librairie pour acheter des livres. Il a trouvé des livres sur la Somalie, ce qui était rarissime. Il m'a invité à déjeuner. Et moi, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? Il m'a dit, je fais des bandes dessinées. J'ai dit, moi, j'en vends pas et je ne vous connais pas. Et il m'a dit, ah bon? Et le lendemain, il est venu avec une pile d'un mètre de livres, tous ses livres. Qui m'a donné. Et donc, là, j'ai dit, bon, il faut que j'y aille. Et donc, j'ai pris le premier livre que j'ai lu de lui, c'était Jésus Joe. Et à, je crois, à la troisième page, il y a un type, un genre pasteur très sévère, qui est dans un kayak, enfin dans une barque, et qui pagaye sur un fleuve. Et tout à coup, il voit des petits oiseaux sur une branche qui roucoulent d'amour. Il prend son fusil, il tire et il dit « Il y a trop de bonheur dans ce bois ». Et ça m'a fait craquer complètement. J'ai dit, le type qui est capable de mettre ça en image, il est formidable. Et on est devenus amis à cause de ce dessin.
Et puis j'imagine aussi, parce que vous aviez en commun cette curiosité des ailleurs. Hugo Pratt, c'est évidemment le père de Corto Maltese, ce navigateur à la fois charmeur, très aventurier. Trouble, aventurier.
Bon, c'est Hugo Pratt lui-même. Hein. Parce que moi, j'ai eu la chance qu'il vienne faire les pâtes à la maison et qu'il vienne dîner souvent avec nous. Il nous racontait ses péripéties en Amérique du Sud. Il nous racontait, c'était comme Corto Maltese. Hein. On était un conquis. Et du coup, il est venu habiter l'île Saint-Louis pendant un certain temps. Et puis après, il nous a quittés pour aller en Suisse. Mais ça a été vraiment un bonheur de le connaître.
Et alors, puisque vous parlez de la Suisse, on a parlé du parrain. Parlons de la super marraine, Ella Maillard, donc grande écrivaine, voyageuse suisse, photographe aussi. Comment est-ce que vous l'avez rencontrée ?
Je l'ai rencontré par son premier livre, Oasis interdite, qui traînait sur un canapé, que j'ai ouvert par mégarde et que je n'ai pas pu lâcher. Et quand j'ai fermé, à la fin de la journée, j'ai dit à la personne qui était là, j'ai dit « Mais quel dommage que cette femme soit morte, parce que j'aurais tellement aimé la rencontrer. » Et Roland, qui était là, m'a dit « Mais elle n'est pas du tout morte. » Elle vit encore, et si tu veux, on peut aller la voir. Elle habite Chandolin, qui est un des villages les plus hauts de Suisse. On lui téléphone et on va la voir. On lui dit qu'on va partir en Asie et tout, ce qui était le cas. Et c'est ce qu'on a fait. Elle nous a invités à déjeuner. Un doux bichou, pas possible. Et elle m'a complètement sidérée. Moi, elle m'a fascinée, vraiment. Et après le déjeuner, elle nous a dit « Bon, alors maintenant, on va faire une petite promenade. » À l'époque, elle avait 60 ans. Moi, j'en avais 20. Mon compagnon en avait 30. On ne la suivait pas. Bon, alors ça a été mon premier contact avec elle. Ce qui fait que quand je partais en voyage, de temps en temps, je lui envoyais une carte postale. Et puis, quand je suis revenue et que j'ai décidé de faire une librairie de voyage, évidemment, j'ai pensé à elle. Et j'ai fait tout ce que j'ai pu pour que Payot la réédite. Avec d'autres gens, mais vraiment, j'y ai contribué.
J'ai été attirée par les tribus asiatiques que je rencontrais au Caucase, que j'avais aperçues, et je suis partie vers l'Asie centrale. Je voulais voir ce que les nomades pensaient de la vie. Les nomades comme les Kirghizes. Je pensais aux Mongols, peut-être, dans les plaines de Mongolie. Je pensais aux Tibétains, ça me semblait inaccessible. Je voulais voir comment ces gens-là, qui n'avaient pas été influencés par notre ère industrielle, comment est-ce qu'ils se sentaient dans la vie. Je savais que la vie était dure, mais enfin, ils arrivaient à vivre. Alors j'ai essayé, plus ou moins gauchement, d'aller voir comment ils vivaient. Avec l'idée, peut-être, un jour, d'apprendre leur langue, de rester auprès d'eux, et de voir vraiment comment était leur... manière de vivre.
Chaque fois qu'il y avait un ouvrage qui était réédité, elle me l'envoyait avec une dédicace. Et sa dédicace devenait de plus en plus sympathique, affectueuse, etc. Il s'est trouvé que ça, c'était dans les années 80. J'avais mon copain qui venait me remplacer quand je partais en voyage, parce que je lui laissais tout, la librairie, ma voiture, mon appartement, et je partais. C'est comme ça que j'ai pu partir deux ou trois fois par an pendant des années. Et je feuillette mon courrier, qui à l'époque était très important. Je vois une écriture que je connais sans connaître, je l'ouvre, c'était Ella qui disait « Est-ce que tu attends que je sois morte pour venir passer du temps à Chandolin ?» Et j'ai dit, bon, bah, c'est clair. Alors j'ai annulé Hawaï. Et puis, je suis partie à Chandolin. Je me revois encore. Je me suis assise dans son petit salon. J'ai posé mon sac par terre. Et on a parlé. Et on n'a pas arrêté de parler pendant 15 jours. Voilà. C'est comme ça qu'on est devenus vraiment amis.
De quoi on parle avec Ella Maillard ?
De tout. Ella a été quelqu'un de fantastique parce que. Elle s'intéressait à tout. Le monde l'intéressait. Elle mettait la radio le matin et elle commentait la radio. Et on parle de tout,
des trucs quantiques, comme de la littérature, comme des voyageurs, comme des voyages, comme de ses voyages, de tout, de rien, de sa vie, de comment elle était, de comment elle allait envisager le reste, comment, etc. Et moi, j'ai trouvé formidable qu'elle ait une deuxième carrière de photographe à la fin de sa vie. Ça, c'était merveilleux. Pour ses 80 ans, il y a eu un panaché de gens qui la connaissaient. Et moi, on me disait, allez, vas-y, écris quelque chose. Et puis, je tardais. Et à la dernière minute, j'ai fait un paragraphe que je vais vous montrer.
Alors, ça s'appelle comment ? Voyage ?
Voyage vers le réel.
Mélange dédié à Ella Maillard à l'occasion, effectivement,
de ses 80 ans. Voilà. Alors, d'abord, il y a trois lignes que Ella disait de moi. Catherine Domain, dans sa librairie Ulysse, a des ailes au talon, le génie des voyages, et je l'admire, prête à suivre son conseil si je pars vers l'inconnu. C'était gentil, hein ? Alors, Paris 1983. Nous voguons sur des planètes sans air où il faut vivre de fatigue. Souvent, la colère nous rattrape là, derrière le temps froissé. Heureusement, il y a Ella. Elle écoute pour nous les chansons des fleuves abandonnés, des sables bleus sous la mer qui pèse, des vents qui courent de montagne à désert, de tout ce qui engendre le rêve et aussi celle des hommes. Avec l'air étroit de l'absence, éclatent les souvenirs comme des miroirs. Nos seuls ponts sont nos écritures, comme autant de fils unilatéralement jetés. Et moi, qui suis l'araignée des voyages du fond de ma tanière, je pense souvent, très souvent à elle. Ella.
L'araignée des voyages.
Ben oui. Parce que je suis au centre, là, et tous mes livres sont des fils.
Et donc, quand on entre chez vous, on se fait forcément attraper par la toile.
Et voilà, c'est normal.
Mais vous avez eu de la chance quand même, parce qu'on sent que cette librairie, c'est aussi ce qui vous a permis de faire des rencontres comme celle-là, parce que de côtoyer ces grands esprits aussi.
Ah oui, oui, c'est... Oui, sans cette librairie, je ne les aurais jamais côtoyés. Et bon, le voyage est quand même un point commun, mais surtout qu'ils sont dans de tels domaines différents. Cette librairie, elle m'a valu d'être nommée Chevalier du Mérite, ce que j'ai jamais demandé, j'ai jamais su qui l'avait fait pour moi, mystère. Ça m'a valu d'être honorée par la reine d'Espagne d'un prix de société de géographie. Hein, j'ai fait partie du jury Nicolas Bouvier, j'ai fait partie du jury de Ouessant, je fais partie des carnets de voyage de Clermont-Ferrand. Donc ça m'a ouvert plein de portes et ça c'est magnifique. C'est un métier qui, au départ, m'a enthousiasmée. Pendant les 10 premières années, tous les matins, je sautais de mon lit gaiement. Ça, ça a été mon grand truc. Pas mettre de réveil le matin et mettre la clé sous la porte quand j'en ai envie.
Être libre de partir.
Voilà. Et ça, c'est magnifique. C'est une vie de milliardaire. J'aime ce que je fais. Et c'est l'essentiel. Mais après, c'est les livres qui m'ont enchantée. Parce que tous les jours, encore maintenant, je découvre des livres que je n'ai jamais lus. Et ça, c'est génial. Ça, c'est absolument extraordinaire.
De toute façon, pour être tout à fait honnête, en regardant autour de moi, on n'aurait pas assez d'une vie pour tout lire.
Ah, ça, c'est là. Vrai. Non, mais ce qu'il y a d'intéressant sur ces rayons, c'est que il y a de l'ancien, il y a du nouveau, il y a du théâtre, il y a de la poésie, il y a du roman, il y a de tout. C'est la liberté de lire. Et c'est aussi la liberté de s'enrichir. Donc, voilà ce qui me conduit et ça me rend un peu triste parce que à qui vais-je laisser cet héritage ? C'est un héritage un peu empoisonné, parce que moi, j'arrive à vivre sur ma réputation, mon passé, etc. Mais la personne qui reprendra, qu'est-ce qu'elle va faire ? C'est très, très difficile. Parce que tous mes concurrents sont morts. toutes les librairies de voyage à Paris ont disparu. Il y en a encore en province. Mais à quel prix ? Elles font du théâtre, elles font des cafés, elles font des restaurants, elles font plein de choses. Et elles font plusieurs métiers. Mais moi, je pense qu'il va falloir beaucoup de temps pour revenir au livre. Le temps que vous passez devant des écrans, c'est le temps que vous perdez pour la lecture. Ben, tout peut changer, hein. Tout peut arriver, mais bon. Je ne suis pas très optimiste sur les librairies.
Et sur la vôtre aussi ?
Moi, la mienne, j'espère que je vais m'accrocher, puis je m'accroche et je resterai comme un truc un peu unique. Voilà.
Mais et vous allez continuer combien de temps comme ça ?
Jusqu'à ce que je ne puisse plus. Si je ne peux plus, j'arrête. Mais en même temps, que c'est à l'âge que j'ai, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ?
Alors, il y a un truc qui s'appelle la retraite aussi.
Non, te laisse tomber la retraite. La retraite, c'est pour les vieux.
Ce que vous n'êtes pas.
Mais ce que je ne suis pas encore. Non, la retraite. C'est rigolo parce que je ne vois pas un jeune mettre ses pieds dans mes chaussures. Je me dis, trouvons les nouvelles choses et régalons-nous de développements complètement improbables qui arrivent. Voilà.
Régalons-nous du monde.
Oui, régalons-nous du monde.
Mais comment on se régale encore, alors, du monde ?
On se régale en restant sur place et en rencontrant les gens.
Donc, en fait, votre librairie, c'est ça le régal ?
Non, mais c'est vrai. Moi, je me régale avec les rencontres que je fais tous les jours. Mais bon. Je suis pas attachée ni à la célébrité, ni à la postérité, ni je pense qu'on passe sur cette terre et que le plus important, c'est le temps présent.
Il y a de ça justement dans le voyage, c'est que on passe, on est de passage. Ouais.
Et le passé est derrière, on l'oublie, le présent, on ne sait pas. Donc, ce qui est très important, c'est maintenant. Voilà.
Merci beaucoup, en tout cas, pour ce maintenant, pour ce présent partagé. Merci, Catherine.
Merci, Céline.
Heureuse qui, comme Ulysse, a fait un long voyage, Catherine Demain a toute sa vie su accorder les mots librairie et liberté. Si vous voulez en avoir le cœur net, n'hésitez pas, si vous êtes de passage à Paris sur l'île Saint-Louis, à pousser la porte de sa librairie pour rencontrer Catherine et vous plonger dans son océan de récits, de pages et d'histoires. Encore merci à Catherine Demain pour son accueil et le temps qu'elle m'a consacré. Sur la page de notre émission, vous retrouverez les horaires et l'adresse de la librairie Ulysse. Laure Allary, Céline de Velay-Mazurel, on vous dit à la semaine prochaine et d'ici là, faites de beaux voyages à l'écoute de RFI.
Retrouvez Si loin, si proche, quand vous le souhaitez, en vous abonnant à notre podcast sur la page de l'émission sur RFI.fr. Religion.